Il est 19h sur France Inter. Le journal, bonsoir Hélène Philippe.
Bonsoir à tous. 3 heures de jeu et la chute, le pire des épilogues pour l'Allemande Zverev, sortie du cours central de Roland-Garros en chaise roulante, contraint l'abandon face à Nadal qui se retrouve en finale à une victoire d'un 22e grand chelem. 100 jours de guerre en Ukraine, la Russie contrôle un cinquième du territoire, un Français tué au combat aujourd'hui, engagé volontaire. L'actualité, c'est encore Boris Johnson, hué à la messe du jubilé de la reine Elisabeth, la crise gouvernementale jamais très loin. 33 ans après, il avoue le meurtre de sa femme disparue dans l'Orne. Ce sont les enfants qui ont poussé la porte de la gendarmerie. Et puis la vitesse pour rebondir après le temps figé de la pandémie, c'est le dernier album d'Isia et le choix culture du vendredi. Et au téléphone sonne Claire.
Eh bien, des lits qui ferment à l'hôpital, faute de personnel, l'éducation nationale obligée de recruter des contractuels en urgence, faute de candidats suffisants au concours d'enseignants. Tous les jours, une alerte concernant les services publics. Hier, c'était aussi des coupures de courant dans le secteur de l'énergie pour réclamer des hausses de salaire, mais aussi une grève inédite dans le monde diplomatique. Alors d'où vient le malaise qui s'étend dans la fonction publique et plus généralement dans les services publics? On en parle au 01 45 24 7000.
France Inter. Le cours central est comme sonné à Roland-Garros. Demi-finale entre Rafael Nadal et Alexander Zverev. Deux premiers sets extrêmement disputés. Un combat de titans et cette chute au pire moment pour l'Allemand. Jérôme Val, bonsoir.
Bonsoir.
Alexander Zverev contraint à l'abandon.
Oui, c'est l'image de ce match qui dépasse tout ce qui s'était passé pendant plus de 3 heures de jeu. Alexander Zverev, criant de douleur, allongé sur la terre battue du cours central. Sa cheville droite a craqué au terme d'un effort pour envoyer une balle canon de Nadal. Mais le pied de l'Allemand est resté bloqué. Alexander Zverev a été, vous l'avez dit, évacué sur une chaise roulante. Il est revenu quelques minutes plus tard avec des béquilles, soutenu par Rafael Nadal à ses côtés. L'Espagnol très déçu pour son compagnon de lutte.
Je suis très triste pour lui, vraiment. Il jouait très très bien, il a fait un excellent tournoi. C'est un excellent collègue sur le circuit. Et je sais combien il se bat pour essayer de gagner un tournoi du Grand Chelem. Il a vraiment, il n'a pas eu de chance. Mais je suis sûr qu'à l'avenir, il va gagner non pas un, mais de nombreux tournois du Grand Chelem. Et je lui souhaite un bon rétablissement.
Et à ce moment-là du match, Nadal menait 1-7-0, 6 partout dans la deuxième manche. Duel accroché, spectaculaire, avec des points exceptionnels. Avec cet abandon, bien Nadal se qualifie pour sa 14e finale à Roland-Garros. Il a remporté les 13 premières.
Et il affrontera en finale, Jérôme, le Norvégien Casper Ruud ou le Croate Marin Cilic.
Oui, deuxième demi-finale complètement inédite. Casper Ruud, 8e joueur mondial et le premier Norvégien à atteindre un tel niveau dans un tournoi du Grand Chelem, face à un vétéran du circuit Marin Cilic, 33 ans, 23e joueur mondial. Tout à l'heure, le Croate peut se qualifier pour sa première finale à Roland-Garros. Et vous l'entendez, les deux joueurs sont sur le court et vont démarrer l'échauffement.
Jérôme Vallant, direct de Roland-Garros, c'est un 22e Grand Chelem, record plus que jamais à la portée de l'Espagnol Rafael Nadal.
Il est 19h03 sur France Inter, c'est le journal d'Hélène Philly. Aujourd'hui, Hélène, un Français a été tué au combat en Ukraine.
Il était parti comme volontaire pour combattre aux côtés des Ukrainiens. Bonsoir Bertrand Galichet.
Bonsoir Hélène.
Et il a été tué dans la région de Kharkiv.
Nous avons appris la triste nouvelle qu'un Français a été mortellement blessé dans des combats en Ukraine, indique seulement le Quai d'Orsay qui présente ses condoléances à la famille. Pas d'informations officielles sur l'identité de ce Français, sur le lieu exact où il a trouvé la mort, ni sur les circonstances précise dans lesquelles il a été tué. Selon une source sécuritaire, l'homme était un combattant, parti comme volontaire, ce que le ministère des Affaires étrangères ne confirme pas pour l'instant. Il aurait trouvé la mort dans des tirs d'artillerie dans la région de Kharkiv, c'est-à-dire dans le nord-est de l'Ukraine, un secteur assez éloigné des zones où les Russes concentrent leurs attaques ces dernières semaines. Il y a un peu plus d'un mois, c'est la Grande-Bretagne qui avait annoncé la mort de l'un de ses ressortissants et la disparition d'un autre Britannique. Les deux hommes auraient combattu comme volontaires contre l'armée russe. Le Quai d'Orsay rappelle ce soir que l'Ukraine, sur l'ensemble de son territoire, est une zone de guerre et déconseille formellement de s'y rendre, quel qu'en soit le motif. dispositif.
Et on apprend aussi ce soir que deux journalistes de l'agence de presse Reuters ont été légèrement blessés dans l'est du pays, tandis que leur chauffeur, mis à disposition par les séparatistes pro-russes, lui, a été tué. 100 jours de guerre, la Russie, la voulette éclair, elle devient d'usure. Les Russes, repoussés du nord, du centre, grignotent l'est du pays. Moscou, qui se félicite d'avoir libéré de nombreuses localités, d'avoir rempli certains de ses objectifs. Le regard ukrainien, bien différent, évidemment. Une tragédie dans les mots du maire de Kiev, Vitali Klitschko.
100 days pain, 100 days died.
100 jours de souffrance, 100 jours de mort, 100 jours de génocide, 100 jours de tragédie pour des millions de gens. Pour des millions de réfugiés. C'est une tragédie pour l'Ukraine, mais aussi pour le monde entier. Notre priorité absolue est d'arrêter ce conflit insensé, dès que possible. Les soldats russes doivent quitter notre sol. Cela fait 100 jours que ça dure. Et nous espérons que cela va s'arrêter le plus tôt possible. J'espère que tout le monde en Russie comprend cela. Gloire à l'Ukraine, gloire aux héros.
Le maire de la capitale Kiev avec Grégory Philips, qui est en Ukraine, pour vous livrer un épisode du podcast quotidien que réalise Radio France depuis le début du conflit, à retrouver sur notre application chaque jour. L'un des enjeux de cette guerre, c'est aussi, on le sait, la crise alimentaire à laquelle elle peut conduire. La Russie et l'Ukraine à elles deux assurent le tiers des exportations mondiales de blé. Et le blocus de la mer Noire menace la sécurité alimentaire de nombreux pays, notamment en Afrique, où l'ONU craint un ouragan de famine. C'est ce dont venait discuter le chef d'État sénégalais Macky Sall aujourd'hui en Russie, reçu par Vladimir Poutine. Sylvain Tronchet, vous êtes en direct de Moscou. Un échange, Sylvain, qui finalement fait les bonnes affaires du Kremlin.
Oui, parce que on ne sait pas ce que Vladimir Poutine a vraiment promis à Macky Sall. Le Kremlin n'a pas communiqué encore, mais d'après le président sénégalais, il se serait engagé à faciliter le transit des céréales par la mer Noire pour les Russes. Je vous rappelle que ce sont les Ukrainiens qui sont responsables du blocus actuel, c'est ce qu'ils disent, parce qu'ils ont miné les ports de la mer Noire. Finalement, il semblerait qu'il puisse y avoir d'autres voies de transit par Mariupol ou par la Biélorussie pour rejoindre les ports de la mer Baltique. Mais surtout ce que l'on a vu aujourd'hui, c'est le président en exercice de l'Union africaine venir reprendre le discours du Kremlin en disant ce qu'il faut pour vraiment régler le problème alimentaire, c'est la levée des sanctions, a expliqué Macky Sall.
Mercredi matin, j'ai parlé au Conseil européen en leur disant, oui, il y a la guerre, mais il y a aussi des sanctions. Et il faut que nous travaillions ensemble sur les deux registres pour que tout ce qui concerne le volet alimentaire, céréales, engrais, soit vraiment hors de sanctions. Et il faut que ces sanctions soient levées contre la Russie.
En tenant ce discours face à son hôte, apparemment totalement satisfait, Macky Sall a illustré finalement les positions très contrastées du continent africain, dont près de la moitié des pays n'ont pas voté une résolution condamnant l'agression russe à l'ONU. Si les Européens peuvent crier au chantage face à la Russie quand elle réclame la levée des sanctions précisément, eh bien il sera peut-être plus compliqué de le faire face à un dirigeant africain qui agite le spectre de la famine.
Et Sylvain Tronchet en direct de Moscou. Et puis à l'étranger, les regards se tournent encore vers le Royaume-Uni aujourd'hui pour la suite des festivités du jubilé de la reine. Ça va durer 4 jours aujourd'hui, office religieux auquel Elisabeth II, fatiguée de la journée d'hier, n'a pas participé. Elle ne sera pas non plus au derby d'Epsom demain, la plus prestigieuse course hippique d'Angleterre. Sans la reine donc, mais avec une multitude d'invités présents à la cathédrale Saint-Paul de Londres. Et parmi les images du jour, celle de Boris Johnson hué à son arrivée. On entend ces huées. Bonsoir Richard Place, vous êtes notre Bonsoir. Correspondant à Londres. On entend, on sent que derrière le jubilé de la reine, il y a bien une crise gouvernementale qui gronde.
Oui, comme tous les Britanniques, Boris Johnson a 4 jours de break depuis hier. Enfin, pas tout à fait comme tous les Britanniques, puisqu'il doit éteindre ou au moins contenir le brasier qu'il a lui-même allumé. Les députés et les élus de la majorité sont de plus en plus nombreux à s'interroger sur son leadership. Depuis la publication du rapport administratif sur les fêtes pirates de Downing Street, 12 députés conservateurs de plus réclament sa démission. Ils sont maintenant une trentaine. Il faut 54 lettres de défiance pour organiser un vote au sein de la majorité, pour ou contre le Premier ministre. mais personne ne sait combien ont été envoyés pour l'heure. Certains ont pu le faire sans en parler. Il est encore loin de prendre la porte et résolu à ne pas démissionner. Alors en coulisses, il œuvre pour éviter l'explosion de son parti. Ses proches dénoncent une campagne de déstabilisation et surtout, le discours des pro-Johnson revient à dire « Arrêtez vos chamailleries, occupons-nous des vrais problèmes, ceux qui concernent les gens, comme le pouvoir d'achat. » Ces huées aujourd'hui lui rappellent, s'il était nécessaire, qu'il n'en a pas fini avec les ennuis.
Richard Place, en direct de Londres.
Un peu plus d'une semaine des législatives, le Conseil d'État se penchait aujourd'hui sur la nouvelle alliance à gauche, la NUP.
Alliance qui n'est pas reconnue comme telle par le ministère de l'Intérieur, qui a prévu de recenser séparément les partis qui la composent. Ce choix, la NUP le dénonce et elle a donc décidé de déposer un référé devant le Conseil d'État. Audience aujourd'hui que vous avez suivi, Lucie Depressoir.
Une discrimination, c'est de cette façon que l'avocat de la NUP qualifie la circulaire du ministère. Son premier argument est clair, la NUP est oubliée et invisible, alors que l'alliance de gauche s'est formée le même jour que celle de la majorité présidentielle. L'avocat dénonce aussi un préjudice pour l'intérêt général. Autrement dit, les électeurs de gauche devront additionner eux-mêmes les résultats des partis de la NUP pour connaître son vrai poids à l'Assemblée. D'autant que l'avocat insiste, tract en main, c'est bien sous cette étiquette, avec des logos NUP, que les candidats font campagne. En face de lui, la directrice des libertés publiques représente le ministère. Elle liste les différences avec la majorité présidentielle. Pas de financement commun, des candidats toujours rattachés à leur parti d'origine et enfin un argument très politique. L'alliance autour de Jean-Luc Mélenchon est, selon elle, une alliance de circonstances susceptible de s'effacer très vite. La décision du Conseil d'État est attendue mardi, elle ne s'appliquera qu'au ministère. Nous serons libres d'additionner ou non les résultats des 544 candidats de la NUP.
Une alliance à gauche que Lutte ouvrière a refusé de rejoindre. Nathalie Arthaud qui reste sur sa ligne, très radicale et qui tape même très fort sur le leader insoumis.
À l'inverse de Jean-Luc Mélenchon, moi je ne pense pas que on puisse gérer de façon meilleure cette société capitaliste. En réalité, elle est ingérable. On le voit avec cette flambée des prix. Donc, moi, je pense que Jean-Luc Mélenchon balade ses électeurs. Être Premier ministre de Macron, mais quelle ambition hein, pour quelqu'un qui prétendait renverser la table. Non, ce n'est pas par les élections qu'on pourra changer notre sort. Ce n'est pas par les élections, tout simplement, parce que ceux qui sont à l'Élysée ou à Matignon ne sont que des sous-fifres qui ne sont bons qu'à réparer les dégâts causés finalement par les capitalistes. Je crois que beaucoup de femmes et d'hommes se disent « mais la réalité, c'est que les dirigeants ne maîtrisent rien. Ils sont complètement dépassés par la situation. Vous avez vu encore ce qui se passe au niveau des hôpitaux, de ces services d'urgence qui doivent restreindre leur accès ?» Voilà, les dirigeants sont complètement dépassés par la situation à tous les niveaux.
Nathalie Arthaud, téléphone d'Antoine Gignot. Les 100 circonscriptions à suivre pour ces législatives. C'est un article et une carte très complète à lire sur franceinter.fr. Et voici une affaire qui aurait pu rester enfouie à jamais. La disparition d'une femme, il y a 33 ans dans l'Orne, jamais signalée. Son compagnon vient d'avouer l'avoir tuée. Et ce sont leurs deux enfants, les années passant, qui ont tenté de chercher des réponses. Nolwenn Lejeune raconte la suite.
En septembre 2021, deux personnes se présentent à la gendarmerie de Bellem, un frère et une sœur, qui viennent signaler la disparition de leur mère. Particularité, les faits sont vieux de 32 ans. Ils racontent que leur mère a mystérieusement disparu en 1989, alors qu'ils n'étaient âgés que de 6 mois et 3 ans. À l'époque, leur père leur avait dit qu'elle était partie de son plein gré. La question les a taraudés pendant des années. La disparition, elle, est restée inexpliquée. Saisi, le parquet d'Alençon diligente une enquête préliminaire en octobre 2021. Les premiers éléments mettent en exergue un faisceau d'indices, indique le parquet. Indice qui laisse penser que la jeune femme n'est pas partie de son plein gré. Les soupçons se tournent vers son ex-compagnon, aujourd'hui âgé de 62 ans. Il a été interpellé lundi dernier et placé en garde à vue et dès sa première audition, indique le parquet, il a avoué et reconnu l'avoir étranglé sans dire ce qu'il avait fait du corps. Des fouilles ont démarré cette semaine dans le secteur du Perche pour tenter de le localiser. L'homme, lui, a été mis en examen pour arrestation, enlèvement et séquestration. Mais se pose la question de la prescription 33 ans après les faits.
Nolwenn Lejeune, France Bleu Normandie. Un arsenal impressionnant découvert lors d'un vaste coup de filet dans les milieux de l'ultra-droite en Alsace. 18 armes, 35 kilos de poudre et plus d'une tonne de munitions. Aucun projet terroriste n'a été décelé pour l'heure, mais 4 suspects ont été placés en garde à vue. Les modes de consommation changent et certaines entreprises ne s'en relèveront pas, comme le numéro 1 des œufs, Matine, qui s'apprête à cesser son activité. activité si aucun repreneur ne se manifeste d'ici à l'automne prochain. 114 salariés menacés dans le Gers et l'un notamment parce que le consommateur se détourne de plus en plus des œufs de poule élevés en cage, Maria Melkurdi.
L'annonce intervient dans un contexte déjà très tendu pour la filière, mais les difficultés de Matine durent depuis plusieurs années. En 8 ans, 114 millions d'euros de pertes cumulées, difficultés aggravées depuis l'année dernière. D'ailleurs, l'annonce de recherche d'un repreneur date d'avril 2021. Ces difficultés seraient dues, surtout selon Matine, à notre façon de consommer qui a changé. Depuis 2016, les œufs issus de l'élevage des poules en cage sont littéralement boudés des consommateurs au profit des œufs dits alternatifs, élevés en plein air, bio, etc. Matine avait pourtant promis une transition avec un objectif de 100% d'œufs alternatifs d'ici 2025 et atteint à moitié aujourd'hui, mais ça n'a pas suffi. Les éleveurs ont déjà dû investir massivement pour respecter les nouvelles règles européennes de l'élevage en cage et ne peuvent pas tous changer de mode de production. Et selon un porte-parole du groupe, les distributeurs préfèrent aussi mettre en avant leurs propres œufs bio ou élevés en plein air, moins chers que les grandes marques et donc apprécier des consommateurs très attentifs au prix.
Maria Melkurdi. On n'aurait sûrement pas autant parlé du match de ce soir au Stade de France s'il n'y avait pas eu les scènes chaotiques de samedi dernier. Ce soir, 20h45, la France affronte le Danemark en Ligue des Nations de football. L'enjeu sur le terrain est limité, mais il est bien plus grand aux abords du stade. L'acheminement des supporters préparé et scruté sous toutes les coutures. Vous êtes sur place, Alain Gastal. Comment ça se passe ?
Écoutez, pour l'instant, ça passe très bien. Il y a une très très forte présence policière, avec notamment des policiers en tenue anti-émeute, mais qui restent pour l'instant sagement à proximité de leur fourgon. Il y a également des policiers en civil chargés de scruter, de repérer les éventuels fauteurs de troubles, des policiers à cheval pour voir en hauteur ce qui se passe dans la foule, et puis des policiers à vélo pour intervenir très vite. Il y a même des policières de la préfecture de police qui distribuent des stylos quatre couleurs aux enfants. Ça, c'est un peu l'opération sourire après les scènes qui ont fortement fait réagir notamment les Anglais la semaine dernière. Pour l'instant, en tout cas à ma connaissance, autour du Stade de France, tout se passe bien. Les supporters sont très nombreux, une immense majorité de Français mais aussi quelques Danois qui arrivent par grappe depuis 17h30 environ. Pour l'instant, il n'y a pas de queue, les portes sont ouvertes depuis une petite demi-heure et on rentre de façon assez fluide. Je suis devant la porte Z où il y a une petite minute d'attente avant d'arriver au tourniquet pour valider son ticket. Et puis à côté, la porte Y, c'est un petit peu le même scénario. Il y a même encore moins, quelques secondes à peine d'attente pour pouvoir valider son ticket et rentrer dans les travées du Stade de France. Pour l'instant, donc, à ma connaissance, tout se passe bien dans une ambiance vraiment très bon enfant, très familiale et avec surtout des supporters français très heureux d'enfin pouvoir assister à nouveau à un match en vrai de l'équipe de France.
Eh ben, je vous laisse profiter de l'ambiance, Alain Gastal. Merci à vous. L'UEFA, ce soir, dans un communiqué, présente ses excuses aux supporters pour les incidents de la semaine dernière. Emmanuel Macron renouvelait hier la confiance qu'il avait en le ministre de l'Intérieur. Le chef de l'État qui répond aussi demain à la presse quotidienne régionale, il y confirme notamment sa volonté de mettre en œuvre la réforme des retraites. Mais à l'été 2023, on était sur la pente descendante depuis deux mois et voilà que ça remonte depuis le pont de l'Ascension. Les Français se sont sans doute plus testés pour aller en famille. Mais la reprise des contaminations liées au Covid est nette, autour de 20 000 cas quotidiens en moyenne sur les 7 derniers jours. Et puis le choix culture de vendredi a un petit lien avec la crise sanitaire. Parce qu'on vous parle de l'album d'Isia, né de la frustration d'avoir dû interrompre en 2020, la tournée de son précédent disque. Celui-ci s'appelle La vitesse, entre Fureur de vivre et Mélancolie, Alexandra Akoun.
J'avais d'autres choses en tête et tu m'emmerdes à en creuser.
Printemps 2021, Isia décide de s'enfermer pendant 5 semaines dans les mythiques studios de La Frette avec son binôme indispensable, Bastien Burger. Elle n'a rien écrit, qu'importe, l'envie est là, l'énergie aussi, un an après l'arrêt brutal de sa tournée.
C'était très dur, on va pas se mentir, c'était quand même une grosse plaie. Je voulais vraiment m'enfermer en lockout dans un studio pour vraiment être dans une énergie contenue. J'écrivais mes textes qui venaient. Bastien, il était en face de moi avec ses synthés et on a travaillé comme ça pendant 5 semaines. On est tous les deux passés par plein d'états. Et ça se ressent, c'est un album vivant, quoi.
Avec des accents pop qu'on ne lui connaissait pas, une rage de vivre décuplée, une liberté aussi qu'il y a attribué volontiers à la maternité et à une certaine maturité.
On se débarrasse de sacs. En fait, on devient l'essence même de ce qu'on est profondément et on l'assume totalement.
Y compris la douleur de l'absence, celle de son père, Jacques Higelin, disparu en 2018. Il est là en filigrane sur plusieurs titres, comme le magnifique Royal.
Souvent je t'ai entendu dire, j'élève pas ma fille, je m'élève avec elle.
Quand je venais de naître, on lui a dit comment vous élevez votre fille. a dit « Je ne lève pas ma fille, je m'élève avec elle ». Et cette phrase, elle m'a énormément bouleversée. Et c'est absolument toute notre histoire, quoi. On s'est élevés ensemble dans l'amour et le respect et la liberté.
Les failles laissent souvent passer la lumière. Et avec cet album, Isia, assurément, rayonne. On s'est fait
la vie royale. La vitesse, c'est le dernier album d'Isia et le choix culture du vendredi.
Merci beaucoup pour ce journal, Hélène Philly. On va prendre des nouvelles du temps.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros et des particuliers. Véhicules thermiques, électriques ou hybrides, les experts Euromaster veillent chaque jour sur la sécurité des conducteurs.
Bonsoir Jean-Pierre Hameau.
Bonsoir Claire.
Situation fortement orageuse sur la France jusqu'à dimanche matin.
Eh oui Claire, avec d'abord une nouvelle salve orageuse intéressant le sud-ouest ce soir et cette nuit. D'ailleurs, Météo France a placé 10 départements du sud-ouest en vigilance orange pour des orages violents. Demain, après une pause en matinée, les orages reprendront du service par évolution diurne dans bon nombre de régions. Seul le pourtour méditerranéen sera épargné. Et puis ces orages seront une nouvelle fois violents par endroits, en particulier entre la Normandie et l'Île-de-France et jusque vers les frontières belges. On retrouvera ces orages dans le nord-est en soirée. Et dans le même temps, une autre vague orageuse va toucher le sud-ouest. Ils seront là aussi localement violents. Ils vont se déplacer durant la nuit vers le Limousin, le centre et la Bourgogne. Restez informés, la carte de vigilance émise par Météo France va très certainement évoluer entre ce soir et demain soir.
Promis, on va suivre ça de très près. Merci beaucoup Jean-Pierre Hameau de Météo France.